Trois quarts d'heure pour débattre autour de l'actualité de la semaine avec des journalistes. C'est le rendez-vous de la tribune de la presse que vous propose Radio Capi. Nous sommes vendredi 15 mai 2015. Bonsoir et bienvenue à tous. Et voici le menu de nos débats. Nouveau massacre des civils la nuit du mercredi à jeudi par des hommes armés à Mapiki et Sabou, deux villages du secteur de Benimbaou situés à plus ou moins 27 km au nord-ouest de Beniville. Les sources locales de la société civile parlent d'une vingtaine de personnes tuées à la machette. Et puis le président de la République, Joseph Kabila, consulte l'opposition pour un dialogue national. Si certains partis au sein de l'opposition soutiennent cette initiative, d'autres la jugent inopportune. Comment les journalistes ont-ils analysé ces deux grandes actualités de notre pays? Nous avons dans ce studio J.R. Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet ici à Kinshasa. J.R., bonsoir.
Oui, bonsoir, Berry.
Luc Mikomo Kabongatre, journaliste à Congo Web, une télévision qui émet ici à Kinshasa, éditeur du Nouveau Regard et président de Cygnis. Luc Mikomo, bonsoir.
Bonsoir.
Thierry Mukelekele, journaliste à la radio-télévision Jedidia de Kambo Veo Katanga, il nous fait le plaisir de venir dans ce studio de Radio Capi. Thierry, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à mes co-débatteurs.
Bonsoir à tous et encore une fois, bienvenue à vous tous dans cette tribune. Et pour commencer, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de la semaine avec vous, Alain Irung, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Cette revue de presse commence par le potentiel qui nous met au parfum d'un nouveau massacre de 23 personnes près de Beni et la tempête des tropiques de s'interroger qui peut sauver Beni. Le Phare rapporte que 35 villages ont été attaqués par les combattants de l'ADF au cours de la période couverte par le dernier rapport du BCNDH sur les graves violations du droit international humanitaire commises par les combattants du groupe rebelle des forces démocratiques alliées ADF. La référence plus renchérit que les Nations Unies accusent les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF d'avoir commis des graves violations du droit international humanitaire dans le territoire de Beni au nord Kivu. Il y a eu exécution sommaire d'au moins 237 personnes de manière systématique depuis octobre de l'année passée, planifiée et préméditée par les ADF. Toutes les 237 personnes que nous avons nommées sont des civils et nous pensons que ça peut constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité par rapport au droit international. Parlons à présent des consultations amorcées par l'émissaire du président de la République. La Prospérité affirme que le sujet est encore tabou en attendant les conclusions du dialogue politique annoncé. Et puisque nous en parlons, le Phare s'interroge, dialogue national, que vise Kabila? De son côté, le tabloïd Congo Nouveau titre dialogue politique, Kabila défie Bemba, Tshisekedi, Kamere et j'en passe. Ce n'est pas du tout l'avis de la tempête des tropiques qui rapporte que Tshisekedi répond à Kabila. L'UDPS renvoie le Raïs à la feuille de route du 14 février 2015 pour résoudre la crise de légitimité en RDC par un vrai dialogue politique sous la médiation de la communauté internationale. Tout à fait autre chose. Le quotidien L'Avenir annonce en manchette qu'au congrès du PPRD à la Fikine, Évariste Ebochab rend le bâton de commandement. À la tête du PPRD depuis 7 ans comme secrétaire général, Évariste Ebochab a annoncé hier à l'ouverture du congrès la fin de son mandat. Mandat incompatible avec ses nouvelles fonctions dans l'équipe gouvernementale. Ce qui n'a pas échappé à la plume du tri hebdomadaire Congo Nouveau qui signe secrétariat général du PPRD, Évariste Ebochab rend le tablier. Terminons par l'actualité en dehors de nos frontières. La tempête des tropiques nous rapporte que le vent de l'alternance qui souffle en Afrique continue à faire des victimes au Burundi. Nkurunziza disqualifié. Le potentiel reprend le décryptage de Thierry Vercoulon de Crisis Group qui dit entre autres que cette crise peut générer une nouvelle crise de réfugiés dans la région. On est à plus de 50 000 réfugiés et le chiffre augmente extrêmement vite.
Merci Alain Irung. Et l'actualité de la semaine, c'est aussi le congrès du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, qui se termine ce vendredi. L'un des temps forts, c'est justement le fait que le secrétaire général Évariste Ebochab ait rendu le tablier. Je me tourne à vous, Gérard Mokolo. Quelle analyse vous faites de ce congrès du PPRD?
Oui, c'est tout à fait normal que le PPRD puisse en tout cas se mettre en ordre pour des batailles, se préparer, mais le PPRD étant un parti au pouvoir, un parti présidentiel, a l'avantage en tout cas de pouvoir fonctionner grâce à l'argent de l'État. Et c'est la raison pour laquelle il a la possibilité de faire venir des délégués pratiquement dans toutes les provinces, tous les coins et recoins du pays. Et je crois que c'est une bonne chose. Bon, il y aura des résolutions, Mais on nous apprend que Barry Boshab, à cette occasion, va en tout cas...
C'est l'un des temps forts,
voilà, céder les bâtons de commandement à une nouvelle équipe. Mais mm-hmm. il aurait dû en tout cas le faire depuis longtemps, parce que la Constitution dit qu'immédiatement, quand on assume une fonction compatible à une fonction politique, on doit immédiatement, en tout cas... C'est
rendre l'établier.
Voilà, rendre l'établier, mais il est fait pratiquement 6 mois après, en violation de la Constitution, mais mieux vaut tard que jamais. Nous saluons cette action. Nous espérons aussi que le secrétaire général de l'opposition républicaine du parti de Kengo, Professeur Bongongo, ministre du Budget, fera la même chose.
Merci beaucoup. Luc Mikomo, est-ce que vous partagez la même lecture?
Plus ou moins, oui, parce que c'était d'ailleurs prévisible. Hein, et ça aurait pu avoir lieu bien avant, mais comme dit hier, on a dû attendre une demi-année pour le faire. Comme il le dit également, mieux vaut tard que jamais. Mais le problème, c'est que est-ce que le passage de flambeau à une autre équipe va modifier foncièrement la manière de fonctionner du PPRD? Il a dit tout à l'heure que le PPRD fonctionne avec l'argent de l'État. Je prends cet aspect-là. Mais il faudrait que les gens apprennent qu'il y a une différence nette entre le bien public et le bien appartenant à un parti politique, qui est un fait privé, qui ne concerne pas véritablement l'État. Mm-hmm. Donc j'ose croire que ce passage va revigorer, va redonner un peu plus de vie, plus d'élan à ce parti, mais également un peu plus de civisme politique, pour que l'on ne confonde plus le bien public et le bien privé.
D'accord. Alors, Thierry Moukele-Kele, un mot rapidement, vous avez aussi suivi ce congrès. Quelle est votre analyse?
Bien, d'abord, il faut que, entre nous, nous nous rappelions que, réellement, la chose publique appartient à l'État. Mm-hmm. Je ne suis pas très, très d'accord quand on accuse déjà les gens du PPRD, ou le PPRD. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que réellement, dans la Constitution, l'exercice du pouvoir est organisé par les partis politiques ou le parti gagnant. Mmh. Il doit placer ses mandataires. Et c'est au travers l'argent que touchent les mandataires en tant que travailleurs
qui financent les partis.
Oui, il y a des débordements. Mais j'aurais aimé qu'on essaie un peu de
rester dans les coins,
dans les cadres, pour que les gens ne pensent pas que quand vous avez un parti politique au pouvoir, c'est l'argent de l'État où vous devez prendre. Donc, je ferme la parenthèse. Entre-temps, Évariste Boshab, oui, certes, il y a 6 mois qu'il a pris du retard pour rendre le tablier. Là, je pense qu'il y a une organisation interne qui a fait que ce retard la soit. Il eût fallu...
C'est ce qui est décrit pratiquement.
Oui, il eût fallu qu'avant d'aller au gouvernement, que ce congrès existât. Parce que si ce congrès avait existé avant la sortie de ce gouvernement, je pense qu'il devait...
On ne serait pas dans ce problème. D'accord. Je vois déjà que Luc n'est pas très d'accord.
Oui, au fait, moi je rouvre la parenthèse que Thierry a fermée.
Rapidement, parce que nous commentons d'abord.
Thierry, nous ne devons pas être un pays d'exception négative. Il devrait se faire automatiquement, au moment où on l'avait nommé, au même instant, il devait déposer sa démission comme secrétaire général du PPRD. 6 mois, nous acceptons, nous tolérons, parce que nous sommes devenus un pays qui accepte toujours... Mais 6 mois, c'est quand même trop. Cela aurait été fait bien avant.
Bien.
Deuxième point, les contributions viennent de contributions de mandataires.
Des mandataires qui sont nommés, oui.
Par principe, oui. Mais est-ce que tous les acteurs politiques peuvent voir cela de bon œil et que cela puisse servir d'exemple? Je referme ma parenthèse.
D'accord, merci. Alors on passe à notre deuxième actualité de la semaine, c'est en dehors de nos frontières, où l'on a observé une confusion politique au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza, demi de ses fonctions dans l'espace de 48 heures, serait de retour dans son pays et l'armée a réussi à neutraliser les putschistes. Comment comprendre cette situation, cher confrère Luc Mikomo? Comment vous avez analysé cette actualité dans votre rédaction?
Pour nous... ce qui se passe au Burundi, c'est véritablement la rupture du consensus national provoqué par Nkurunziza. Aujourd'hui, il est plus ou moins vainqueur, mais il n'a pas vidé les problèmes dans sa quintessence. Ce problème, cette stabilité qu'il a dû créer par le non-respect des textes constitutionnels, ça va poursuivre son pays et, si cela n'est pas déjà le cas, a fait basculer le Burundi dans un chaos, dans une instabilité dont lui et tout son système sont responsables.
D'accord. Alors, Thierry Mukelekele, comment vous, à partir de Kambove, pratiquement, vous avez analysé la confusion qu'il y a au niveau du Burundi?
Eh bien, il faut d'abord faire la part des choses. Le troisième mandat n'était pas dans la Constitution. Mais il faut aussi disséquer la politique, le droit et le social. Le peuple a un problème de social. Là-bas. Les acteurs politiques ont un problème politique. La Cour constitutionnelle gère le droit. Bon, peut-être qu'il y a eu tricherie, mais quand la Cour s'est déjà prononcée, c'est ce que dit la Constitution même de la République démocratique du Congo, quand la Cour constitutionnelle se prononce sur la légalité...
Et c'était sous pression.
Mais la Cour s'est prononcée sur la légalité d'une matière.
Okay.
C'est-à-dire que tout le monde se plie et la compétition sera renvoyée. Peut-être dans 5 ans, si jamais Nkurunziza gagnait aux élections. Là aussi, il y a une question. Même s'il revient au troisième mandat, va-t-il gagner aux élections? Voilà encore. Quand je reviens sur l'aspect politique et je chute, l'opposition ne joue pas franc jeu au Burundi. La société civile prend la place de l'opposition. Deuxième erreur des Burundais. Et quand vous comprenez, il y a une nette différence entre une masse en mouvement et un mouvement de masse. Ce qui s'est passé au Burundi, c'était un mouvement de masse. Parce qu'il y a ceux-là qui refusaient, aujourd'hui, on va me donner raison, il y a ceux-là qui refusaient le troisième mandat, et il y a ceux-là qui ont renversé le président de la République, et il y a ceux-là qui disaient que, et le président et les militaires doivent partir. Ça dit que, on dit que la situation est volatile, c'est parce que on n'a plus les indicateurs.
Mmh.
Et ceci revient au profit du président Nkurunziza.
D'accord. Alors, J.R. Mokolo, est-ce que ce n'est pas finalement le vent du Burkina Faso qui souffle maintenant sur le Burundi?
Oui, en tout cas, je suis convaincu que ceux qui agissent au Burundi, surtout au niveau de la société civile, la population, s'étaient inspirés de ce qui s'était passé au Burundi.
Au Burkina Faso.
Ils étaient en passe, en tout cas, de réussir ces paris-là. Mais l'action posée par les militaires, bon, par principe, on doit condamner un coup d'État. Mais c'était un coup de pouce, je crois, un mal nécessaire. Qui devait quand même essayer un peu de corriger les choses, faire en sorte que ce que Nkurunziza voulait, obtenu par fraude, en instrumentalisant la Cour constitutionnelle, Thierry dit que voilà, la Cour a décidé, mais vous devez vous rappeler quand même que le vice-président de cette Cour-là a démissionné, est parti en exil.
Et il vient
ça veut dire que ce sont des gens qui ont agi pratiquement sur base des menaces de mort du président Nkurunziza. Donc, c'est un exemple burkinabé bon, qui n'est pas peut-être encore arrivé à être appliqué, mais il ne faut pas dire que c'est fini parce qu'il y a des gens qui sont déterminés à ne pas accepter l'inacceptable. Parce qu'on dit non, le premier mandat, il n'était pas élu au suffrage universel direct, mais la Constitution burundaise elle-même dit que c'est parce qu'on ne s'est pas appelé le peuple aux urnes qu'on a donné exceptionnellement, en tout cas, mandat au Parlement de pouvoir élire le président
pour
son premier mandat. Donc, il est en train de forcer les choses et je ne crois pas qu'on acceptera, et même au niveau de la communauté internationale, que Nkurunziza puisse réussir son coup, sinon ça risque de faire en tout cas tache d'huile. Et ça risque aussi de contaminer d'autres pays.
D'accord, merci beaucoup. Alors, on va finir cette première partie avec une page noire qui a secoué le monde professionnel du journalisme pratiquement. Victor Kasonga Mbunga Kalala Kafumba est décédé mardi dernier ici à Kinshasa, ancien journaliste et ancien président délégué général de l'Office d'Aéroa de radiodiffusion et de télévision aux RT, l'actuel RTNC. Il a été reporter affecté à la présidence de la République sous le maréchal Mobutu pendant plus de 10 ans. Quel souvenir rapidement, quel souvenir gardez-vous, cher confrère, JR?
Oui, bon, je ne l'ai pas connu physiquement, mais je l'ai suivi à travers, en tout cas, ses productions, surtout quand il était au niveau de la présidence. Donc, c'est vraiment un pionnier de la presse dans notre pays, sous de la télévision, avec ses équipiers comme Stéphane Kitou-Léontois, les DG des canaux Congo Télévision, comme Mavungo Malanamungo qui nous a déjà quittés, comme Elandrou Salakassa et bien d'autres. Donc, c'est vraiment des chevronnés, des gens qui ont vraiment montré les chemins à l'actuelle génération dans ce travail des journalistes. Donc nous devons, en tout cas, je crois, nous tous l'accompagner dans sa dernière demeure. Et je souhaite à ce que vraiment la paix, la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Il a fait son temps. Il a, je crois, laissé des bons souvenirs parmi ceux qu'il a dirigés, parmi ceux qu'il a travaillé avec lui. Vraiment, chapeau bas à Kasonga Mbonga, Kalala Kafumba.
Très bien. Alors, Luc Mikomo, vous l'avez aussi connu?
Oui, j'ai eu à discuter avec lui deux, trois, quatre fois peut-être. Récemment, la dernière rencontre que j'ai eue avec lui, c'était au Grand Hôtel Kinshasa, où il m'a dit, jeune homme, viens, et puis on a commencé à parler politique, ainsi de suite. Il m'a dit, j'apprécie beaucoup tes émissions, jeune homme, mais je souhaite que tu puisses avoir une longue vie, comme s'il savait. Nous avons fait ce qu'on devait faire. Si on a pu être quelque part, quelques exemples pour vous, suivez. Mais ne suivez pas ce que nous avons fait du mal. Et que, sachez que nous avons travaillé dans un contexte qui n'est pas le vôtre. Si il m'était demandé, me disait-il le vieux, de reprendre, j'aurais souhaité reprendre la profession journalistique dans ce contexte.
Waouh, ça fait froid dans le dos.
Après, il a dû m'acheter une bière. Il dit, je t'achète ça pour t'encourager et te bénir. Ce sont des aînés qui ont, comme dit le confrère tout à l'heure, joué leur part de partition. Et je crois que par rapport à leur contexte, ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Nous ne pouvons que demander à Dieu de lui donner, lui et tous les autres, un repos éternel et de participer aux béatitudes infinies.
Vraiment. Alors, Thierry Mukele-Kele, c'est vraiment une perte dans la presse congolaise.
Oui, une grande perte. Mais là où j'interpelle un peu le gouvernement, c'est sa manière-là d'abandonner les journalistes. Nous ne sommes importants que quand il faut un coup d'État. Vous avez suivi au Burundi, c'est la presse qui a annoncé le coup d'État. Nous sommes importants quand ils ont des grandes manifestations, c'est la presse
qui vient couvrir.
Mais quand nous sommes dans les malheurs, une inquiétude à l'hôpital et tout, même votre chef, quel que soit son rang, mais du fait que vous êtes, je ne sais pas. Le journaliste semble remplacer le moalim, l'enseignant. Du fait que vous êtes journaliste, à quelque échelon que vous vous retrouvez, vous ne trouverez pas des journalistes qui se sont démarqués sous le plan social. Regardez le vieux, je perds le nom.
Claude Kamanga.
Je n'imaginais pas qu'il était en indépendance, mais voyez le tabloïd des gens qu'il avait reçus dans ses émissions. Et ce n'est pas ce vieux-là qui devait chuter sa vie dans cette manière-là. Et semblait-il, au lieu du deuil, il y aurait eu même des cotisations. Est-ce que pour le vieux qui vient de décéder, continuerons-nous à connaître ce même genre de comportement?
D'accord. Radio Capi et toutes les rédactions à travers le Congo présentent les condoléances à la famille biologique et à toute la famille professionnelle de l'illustre disparu, ce qui nous conduit à notre premier thème de la soirée qui concerne les massacres à Beni. Alors, il y a eu un nouveau massacre des civils la nuit de mercredi à jeudi par des hommes armés à Mapiki et Sabou. Ces deux villages du secteur de Benimbaou sont situés à plus ou moins 27 km au nord-ouest de Beniville. Les sources locales et de la société civile parlent d'une vingtaine de personnes tuées à la machette. Papy Martial Moukeba nous donne les détails.
C'est aux environs des 19h locales hier mercredi que des hommes armés ont fait incursion à Mapiki et Sabou. Selon des sources locales, arrivés dans ces deux villages, les assaillants se sont attaqués à la machette et à la hache aux populations et tué plusieurs d'entre elles. Le président de la société civile du territoire de Béni donne un bilan des 22 personnes tuées, notamment 7 à Mapiki et 15 à Sabou. Selon Teddy Catalico, il s'agit d'un bilan provisoire car les recherches se poursuivent. L'administrateur du territoire de Béni confirme ces nouveaux massacres. Mais selon Amissi Kalonda, jusque-là, seules une dizaine de corps ont été retrouvés par les services de sécurité dépêchés sur les lieux. L'administrateur du territoire de Béni appelle les populations de sa juridiction à quitter rapidement les zones reculées et à se rapprocher des positions des FRDC, signalant que ce nouveau massacre intervient moins de 24 heures après le séjour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à Béni. Évariste Boshab était en mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et en début de semaine, le gouverneur de la province du Nord Kivu avait demandé à l'exécutif national de se pencher sur cette question, comme il se penche sur le cadre macroéconomique du pays. Julien Paluku avait déjà fait le bilan de plus de 300 morts depuis octobre 2014, période des premiers massacres. Je me tourne vers mes invités pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Nous avons dans ce studio J.R. Mokolo, journaliste à la Canal Congo Télévision, Luc Mikomo Kabongatré, journaliste à Congo Web, éditeur du Nouveau Regard et président de Signis, et Thierry Mukelekele, journaliste à la radio-télévision Gélidia du Kambo VO Katanga. J.R. Mokolo, une question qui me vient à l'esprit, comment vous analysez ce nouveau massacre?
Oui, c'est vraiment incompréhensible. C'est incompréhensible vu le nombre de personnes tuées au Congo depuis pratiquement la guerre de l'AFDL, depuis l'entrée même des réfugiés outre-rwandais en 94 dans notre territoire. Donc c'est incompréhensible qu'on puisse encore continuer à tuer des gens. Et moi, je demanderai ce que même les Nations Unies puissent en tout cas mener suffisamment d'enquête. Parce que c'est cette facilité-là de dire à chaque fois qu'il y a massacre, Adef Nalou, il faut vraiment enquêter pour pouvoir identifier peut-être les vraies personnes qui perpètrent en tout cas ces massacres-là. C'est ces commandos invisibles qui doivent avoir infiltré l'Est du Congo pour peut-être démontrer que et la MONUSCO et le gouvernement congolais ne sont pas à même de pouvoir faire le travail pour lequel, en tout cas, ils sont chargés. Et c'est ce qui m'étonne.
D'accord, je vous redonne la parole. Luc, est-ce que vous comprenez, vous aussi, ce massacre?
Moi, je ne comprends pas dans la perspective où c'est au lendemain de la visite du Premier ministre de l'Intérieur que ce massacre a lieu. C'est que je ne comprends pas, ce n'est pas qu'on tue les gens. C'est que le gouvernement ne trouve pas suffisamment de moyens pour réduire à sa plus simple expression.
Et je vous rappelle que même quand il était présent, il y avait 6 personnes qui étaient mortes.
Tout à fait. Oui. Et même quand le président de la République était là,
justement,
il continuait à tuer comme si la présence des officiels ne leur disait absolument rien. Alors moi je dis que le séjour du ministre de l'Intérieur ne peut pas être considéré comme une sinécure dans cette partie de la République et que la République démocratique du Congo ne doit pas continuer à avaler les couleuvres imposées par les ADF d'Alou. Il faudrait, comme l'avait dit Martin Kobler il y a peu, qu'il faut des mesures strictes pour restaurer la paix. Et là encore, confrère, il se pose un problème de la mission de paix de Nations Unies en République démocratique du Congo. Maintenant, un peu plus de 20 ans, apparemment, la paix ne répond toujours pas au rendez-vous. C'est qu'il y a un problème. Ou ce sont des mauvais diagnostics que l'on pose pour ne pas trouver des solutions idoines, ou c'est une volonté politique qui fait défaut et qui justifie la perpétuation de ces massacres, ou encore, c'est un état de non-état que nous sommes en train de vivre, comme le disent certains, que bon, l'État est abandonné à son triste sort et que les politiques s'occupent comme les élections sont maintenant
très proches,
constituent la préoccupation majeure des politiques. Donc on ferme les yeux, on ferme les oreilles à tout ce qui se passe. Autre chose, Julien Paluku, le gouverneur du Nord Kivu, a lancé un cri d'alarme.
Qui a été mal perçu.
Qui a été mal perçu. Et il demande, mais comment le Premier ministre ne parle que de la maîtrise du cadre macroéconomique, alors qu'il y a un problème sociétal qui se pose et qui risque même, sous d'autres cieux, de compromettre son siège de Premier ministre.
D'accord.
Moi, je crois que sur ce point-là, Julien Palou, vous n'avez pas tout à fait.
D'accord. Là. Alors, je vais donner la parole à Thierry Moukele-Kele. Vous avez suivi les massacres à Beni et les cas d'insécurité, ce n'est pas seulement à Beni, c'est aussi pratiquement chez vous, Katanga, où il y a eu des morts. Comment vous expliquez cela ?
Bien, il y a l'autre approche que beaucoup d'entre nous ne cherchent pas à comprendre. D'abord, pour le cas de Beni, et même chez nous au Katanga, ce sont des actes de sabotage.
Donc, pour vous, on est en train de narguer le pouvoir en place.
On est en train de narguer le pouvoir et il y a un jeu de ping-pong.
Et ça, entre qui et qui, le jeu de ping-pong ?
Entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux.
Ok.
Et ça, j'attire l'attention, parce que le chef de l'État est commandant suprême des forces armées. Mais à un certain niveau, son pouvoir est divisé, parce que la Constitution lui arrache les compétences qu'avait Mobutu. La sécurité, la défense nationale et tout était un domaine privé.
Mais quand il va à Beni pour s'enquérir de la position, de la situation réelle et qu'il y a des morts pendant qu'il est présent.
C'est quand je parle d'acte de sabotage. C'est un jeu de ping-pong entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Regardez aujourd'hui, si nous évaluons, Kabila est plus sûr et en sécurité dans la capitale, où il a une opposition qui les nargue, mais au moins sa sécurité est assurée dans la capitale.
Et elle n'est pas compromise.
Elle n'est pas compromise. Mais quand il doit descendre en province, là, il n'est pas nargué par la politique, il est plus nargué par les aspects sécuritaires. C'est comme ça que je parle d'un jeu de ping-pong. Au Katanga, on a affaibli le gouverneur du Katanga. Mm-hmm. C'est le gouvernement central. À Goma, on affaiblit
Julien
Paluku. C'est le gouvernement central. Le monsieur de Maniema.
Chisambo.
Toutou Salomon. Il est affaibli. Chisambo. Il est affaibli. Oui, Kassanji est affaibli. L'espace où le chef de l'État peut respirer, c'est Kisangani, Bandaka,
Bakongo. Congo central.
Congo central, oui. Oui. C'est là où le chef de l'État peut respirer. Mais quand vous voyez ces acteurs majeurs dans les provinces, ce sont les derniers piliers que Kabila détient. Ça dit que pour nous, les situations d'instabilité à l'est du pays, c'est une question que le chef de l'État doit poser dans le gouvernement. Où le gouvernement a la charge, pour confirmer chez Luc, c'est le gouvernement qui a la charge de la défense nationale.
Alors, je vais poser une question, ça va susciter, ça permettra à tout le monde de répondre. Est-ce que vous partagez l'avis de certains politiques qui disent que ces massacres ou cette insécurité est causée par les autochtones ou encore les politiques du coin ?
C'est une combinaison, parce que les leaders politiques locaux, ce sont eux qui gèrent les situations dans les collectivités. Trouvez-vous normal que 40 personnes entrent, égorgent et repartent sans trace ? C'est pas normal. Il y a les services de sécurité. Et suivez un peu très bien. On ne punit que peut-être le représentant de l'ANR localement, le commandant police, peut-être celui-là des FRDC. Et les punitions ne se limitent qu'à ça. Or, si les services sont biaisés dès le départ, ça dit que le chef de l'État qui est le consommateur du renseignement et qui doit prendre des décisions sur l'ensemble du territoire national est mal renseigné.
D'accord. Alors, JR, est-ce que vous partagez ce même avis ? Est-ce que ce sont les politiques qui sont à la base de ces insécurités ?
En tout cas, personne n'a mené des enquêtes pour pouvoir prouver de telles allégations. J'ai suivi dernièrement sur DEC, Franklin Tshiamala,
oui, oui.
Et la majorité présidentielle, dans son tentative de pouvoir dédouaner le Premier ministre, bon, il a dit tous les mal qu'il pensait de gouverneur Julien Paluku. Mais je pense que si on devait mener une enquête, lui dit que ce sont des enfants du Nord Kivu qui sont là-bas de cette insécurité. Je crois que il peut être parmi les personnes à être interrogé pour qu'il nous indique en tout cas ses sources et qu'il puisse dénoncer toutes ces personnes-là. Deuxièmement, je voudrais quand même rappeler que nous ne sommes pas dans une guerre classique. Nous sommes dans une guerre asymétrique, comme on le dit, une guerre de guérilla. Et en Afrique, ici, on a vu pratiquement seulement un seul pays qui est venu à bout d'une guérilla, c'est l'Angola. Donc, nous sommes, quand Thierry dit non, 40 personnes, mais ce sont des gens sûrement qui vivent dans le même milieu que tout le monde. Comme vous et moi, on est ici sur ce plateau de Radio Okapi, ces studios de Radio Okapi, pardon. Et moi, j'ai porté une cagoule, la nuit je viens chez toi, tu ne sauras pas m'identifier. Donc, il y a des gens qui sont là, ils ont. En tout cas, ces soucis-là, ce n'est pas un projet de nuisance pour le Congo. Je ne sais pas s'ils sont instrumentalisés par des pays voisins.
Et donc, pour vous, la thèse des ZDF ne tient plus la route.
Non, je dis ceci, ça peut être les ZDF, mais ils les font pour quelle finalité? C'est pour peut-être démontrer que dans ces pays-là, ceux qui dirigent ces pays ne sont pas à leur place. Et que la mission onusienne, par exemple, ne fait pas son travail. Et ça doit être sûrement pour le compte d'un État étranger. Et comme on dit dans les relations internationales, les États, ce sont des monstres froids. Donc, il y a sûrement des pays, ou soit les pays frontaliers ou d'autres, qui ont intérêt à ce que le Congo soit toujours en insécurité. Et voilà, ils sont prêts à tout. Et je suis convaincu qu'il y a des forces tapis dans l'ombre, qui manipule toutes ces forces négatives. Ça peut être des FDF, ça peut être des FDLR, ça peut être même des groupes Maï-Maï locaux, ça peut être même peut-être des groupes ethniques congolais, mais il faut vraiment qu'on mène des enquêtes pour identifier.
Très bien, on va mener des enquêtes et il faut vraiment voir le mal à la source. Alors Luc, selon vous, quelle doit être la solution pour en finir une fois pour toutes?
La solution doit être dans le dialogue. Pas un dialogue pour le dialogue, mais dans un dialogue stratégique.
Un peu comme ce qu'a recommandé le gouverneur Paluku.
Entre autres. Parce que je constate qu'il y a depuis que le régime Abdel est venu, il y a des conflits armés à répétition, mais avec une fixation, une concentration dans la partie Est. Donc, l'origine de la crise peut être trouvée dans quelque chose qui n'aurait pas été bien mené ou dans un problème qui n'aurait pas trouvé solution dans toutes ces négociations, parce que moi j'ai participé dans la conférence pour le développement des deux Kivu, ainsi de suite, mais ça continue. Ça veut dire qu'on n'a pas touché le vrai problème. Okay. Alors, quand il y a
la solution, parce qu'on va passer à notre deuxième thème.
Des actes de sabotage, moi je l'interprète comme une interpellation du gouvernement à bien examiner le problème et à pouvoir répondre au coup par coup. Okay. Vous savez, il y a un adage africain qui dit « Quand quelqu'un te mord, il te rappelle que toi aussi tu as des dents. »
Ok, alors on finit par là et ça nous permet de rentrer dans notre deuxième thème de la soirée qui concerne justement le dialogue. Un émissaire du chef de l'État consulte depuis quelques jours des partis politiques de l'opposition en vue d'un dialogue. L'UDPS, l'UNC et le MLC ont confirmé mardi à Radio Okapi avoir reçu la visite de cet émissaire. Selon le secrétaire général du MLC, l'émissaire du président de la République voulait avoir l'accord des participations des partis politiques à un prochain dialogue entre acteurs politiques. Eve Bazaïba dit qu'il est temps de se concentrer aux prochaines élections, que les partis souhaitent, que son parti souhaite crédible, transparente et apaisée. On l'écoute au micro de Mimi Ngumba.
Le MLC, lorsque nous avons réfléchi au niveau de la direction politique, c'est pratiquement le 11 mai, 9 jours après, que nous avons répondu. On a même envoyé une correspondance à l'émissaire. Nous lui avons remis à main propre. Nous avons dit ceci. En ce qui concerne le MLC, nous nous focalisons actuellement à la résolution 22-11 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande au gouvernement de la RDC et à ses partenaires de veiller à la transparence, à l'organisation des élections. Ces dialogues dialogue-là a déjà eu lieu à travers les concertations nationales. Qu'est-ce que nous apporte ces dialogues? Pour le moment, nous avons besoin de l'organisation des élections. Le MLC dit tous les Congolais cap vers les élections. Et quelles les élections? Les élections provinciales. En ce qui concerne les élections locales, nous avons donné un document en bonne et due forme déposé à la CENI. Nous attendons la réponse de la CENI quant à ce. Nous attendons la réponse de la majorité quant à ce. À ce stade, on n'a plus besoin de forum.
Du côté de l'UDPS, on est d'accord avec ce dialogue, du moment où ce dialogue inclusif fait partie, selon ce parti, des recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba signé en février 2013 par 11 États de la région des Grands Lacs pour pacifier l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi, secrétaire national chargé des relations extérieures, le dit à J.R. Lungembo.
Absolument pas l'intention d'offrir la perche à qui que ce soit pour obtenir un glissement. Nous ne nous inscrivons pas dans ce schéma et non plus dans le schéma où que j'ai entendu dire ci et là d'un éventuel partage de pouvoir. Nous ne partagerons pas le pouvoir, d'autant plus que c'est un régime finissant, un pouvoir finissant. Il faudrait simplement baliser la voie.
Alors pour une inquiétude, en quoi ces dialogues sera-t-il différent des concertations nationales?
Ben déjà il y aura pas de perdième. Déjà, ça ne va pas s'inscrire dans la durée comme on l'a vu là-bas. Pour nous, 10 jours suffisent pour parler des vrais problèmes. Et les vrais problèmes ici, c'est lesquels? J'ai parlé du contentieux. Pour éviter l'expérience malheureuse de 2011, il faut discuter des sujets qui fâchent. Donc, qu'est-ce qui fâche ici? Ben, c'est le processus électoral.
Thierry Moukélékélé, est-ce que le dialogue aujourd'hui est opportun?
Bien, le dialogue doit être permanent. Ça, c'est un fait. Mais il faut comprendre de quoi est-ce qu'on va dialoguer. C'est ça le problème. Quand vous entendez Eve Bazaïba et Félix Tshisekedi, ce sont deux fusées qui ne se rencontrent pas. Mm-hmm. Mais c'est l'opposition congolaise. Eve Bazaïba parle des élections en sa manière. Félix Tshisekedi parle des élections en sa manière. Mais c'est quel genre d'élection que les deux camps dans une opposition réclament? Et quand on pense que on ne vient pas faire la perche comme l'a dit Félix Tshisekedi, mais rentrons d'abord dans son propre parti politique. Est-ce que sont-ils prêts d'affronter les élections, même présidentielles? Voilà, la même question revient au MLC. Ils ont pour candidat Jean-Pierre Bemba. On n'est pas sûr quand est-ce qu'il...
Ils n'ont pas encore fait de concret.
Je suivis l'honorable Joly, Jacques Mamba, qui parle d'un candidat qui n'est tout autre que Jean-Pierre Bemba. Okay. L'UDPS, c'est Étienne Tshisekedi. Bien, regardez les deux acteurs, probablement candidat président en 2016. Quelles sont les statures que présentent ces deux candidats? Ça fait problème. Quand nous allons à la soi-disant opposition républicaine, elle ne s'affiche pas, elle est toujours en ordre dispersé.
D'accord, on va faire un dernier tour des tables. D'abord, je donne la parole à J.R. Mokolo. Alors J.R., les partis comme le MLC, vous l'avez suivi, ne sont pas prêts pour dialoguer dans ce cadre-ci. Est-ce qu'on partage d'abord leur avis et quelle serait la crainte?
Oui, bon, les dialogues en tout cas doivent être permanents, comme l'a dit Thierry Moukélékélé, bien sûr. Mais pour le MLC, je crois, chat échaudé craint l'eau froide. Ils sont allés en concertation. Il y a eu beaucoup de tiraillements au sein du parti. Il y a eu même des cadres qui sont allés négocier des postes à l'insu du parti. Et vous savez, c'est la crise que ce parti-là a connue. Je crois que Bazaïba, qui a vraiment comme mission de pouvoir relancer le parti, et de pouvoir, c'est un peu comme eux même disent, d'enlever l'anesthésie dans les corps du MSC, ne voudrait pas rééditer la même expérience, c'est-à-dire se retrouver dans un dialogue avec le président, avec tout ce qu'il y aura, par exemple, comme manipulation, comme rumeur, en disant que non, Bazaïba va être ministre, va être ceci, cela. Les gens diront, ben, vous avez reproché à Louaka et compagnie d'entrer au gouvernement, et vous aussi, vous allez au dialogue avec Kabila pour pouvoir
négocier les postes. Donc pour vous, au MLC, c'est la crainte un éventuel glissement.
Tout à fait, question de crédibilité d'abord de ces partis-là. Bon, pour ce dialogue-là, vous vous rendez compte, par exemple, qu'il y avait une coalition, CVD, coalition pour le
vrai dialogue.
Et qui a bataillé avant même les concertations pour qu'on ait un dialogue. Il y avait même ces sociétaires comme Martin Fayoulou et Wanga qui ont été même bastonnés par la police et passés mener des campagnes pour un vrai dialogue. On se rend compte qu'aujourd'hui, le gouvernement, disons la majorité présidentielle, est en train d'insister pour ces dialogues-là. Mm-hmm. Mais quand les autres demandaient ces dialogues-là, vous ne voulez pas leur donner. Et maintenant que vous avez besoin de ce dialogue-là, c'est tout à fait normal que aussi vous dites non, nous avions faim de ce dialogue à l'époque, maintenant que vous ne voulez pas nous donner, maintenant, nous, on n'a pas besoin de ce dialogue-là.
D'accord.
Mais il faut espérer, comme le dit Félix Tshisekedi, que réellement ce dialogue va baliser le chemin pour les élections. Et que on va peut-être essayer un peu de voir comment avoir des élections apaisées,
d'accord,
mais surtout pas une question de partage du pouvoir.
Ok. Alors, Luc Mikomo, est-ce que les craintes des uns et des autres se justifient?
Oui, ça se justifie dans un contexte où il n'y a rien de sûr, de rassurant. Mais je crois que le dialogue doit être permanent, mais il doit être limitatif. Et quelque part peut-être inclusif, limitatif dans le sens où l'on doit vraiment cibler le vrai problème, parce que le problème, il y en a plein, qu'on ne fasse pas...
Et dans
pas,
tous les domaines même.
Et dans tous les domaines, qu'on cible un problème qui doit être résolu, et plus précisément dans la perspective des élections. J'entends que le MLC... va présenter Bemba, qu'il sortirait de sa prison de la CPI. J'entends de l'autre côté que Joseph Kabila ne serait plus candidat à sa propre succession. C'est d'ailleurs constitutionnel. Si tel est le cas, tant mieux. Kamere, Matungulu, Ilankir, ainsi de suite. Il faudrait maintenant qu'on se parle pour fixer la règle du jeu, c'est-à-dire quelles sont les attitudes que tous les candidats doivent adopter pour que les résultats des urnes soient acceptés par tous et que après les élections, l'on ne génère pas une crise, mais qu'on entre dans une période d'une certaine paix.
Et c'est justement cette question que vous posez qui est la dernière question pour conclure et atterrir dans cette tribune. Vous pouvez donner des pistes et des solutions.
Oui, il faudrait que les choses se passent chez nous comme ça s'est passé au Nigeria.
Okay.
Il y a eu un consensus avant d'aller aux élections. Parce que dans le contexte actuel, si la CENI organise les élections par défi, nous allons déboucher
sur un chaos.
Donc ça ne sera pas des élections qui vont arranger les choses. Il faudrait que nous allions dans une forme de consensus national pour que les résultats des urnes soient acceptés par tous, que le perdant appelle le gagnant pour le féliciter et que les gagnants
ne se considèrent pas comme étant
un super vainqueur, qu'il soit un gagnant de tous et de chacun.
D'accord, merci beaucoup, c'est votre conclusion. Thierry Moukeleke, les conclusions.
Bien, il y a un oubli que tous les Congolais, dans lequel le Congolais s'est plongé. Au moment où nous discutons autour de ces micros, il nous reste 447 jours pour convoquer les élections présidentielles à la date du 20 septembre 2016.
Waouh. Merci pour le rappel.
447 jours.
Et Thierry, ça ne doit pas être une fixation. Hein,
ce n'est pas une fixation parce qu'il y a déjà un calendrier.
Oui.
Ouais, je suis dans le calendrier.
Établi par
447 jours. Dans les 447 jours, nous n'avons que 16 millions d'électeurs votants en 2011.
Rapidement, parce qu'on doit finir.
Je chute par là. C'est le fichier que nous avons pendant que nous discutons.
Mmh.
Êtes-vous sûr que dans une année, nous aurons toujours les 16 millions des Congolais pour aller au vote? Or, aujourd'hui, rien que Kinshasa a près de 10 millions d'habitants. Êtes-vous sûr que le président qui sera élu en 2016 sera un président pour l'ensemble de la République sur un fichier de 16 millions.
Donc vous êtes pour le dialogue tel que le recommande aussi Luc.
Il faut dialoguer,
d'accord,
et trouver un modus vivendi pour chuter bien.
D'accord. Alors J.R. Mokolo, conclusion.
Oui, moi j'estime que parce que nous parlons élections, je crois qu'il faut que toutes ces discussions se fassent autour du calendrier électoral. Voir par exemple que si on organise les locales et les municipales aussi, on risque de manquer d'argent et d'arriver à ces glissements-là. On peut accepter de laguer ces élections, de les repousser un peu plus tard après 2016 et que les gens se rendent vraiment, s'accordent pour dire que les élections, ce n'est pas une question de vie ou de mort.
D'accord.
Donc après les élections, il faut que les Congos
continuent.
Et surtout qu'à l'est du pays, il y a des gens qui meurent tous les jours. Il ne faut pas encore générer d'autres morts à travers les élections.
D'accord. Merci beaucoup, J.R. Mokolo, Thierry Mukelekele et Luc Mikomo. Tribune de la presse prend fin maintenant. Hippolyte Kapang était à la prise de son. La coordination était assurée par Alain Irung, Berry Franklin Ouchaka vous l'a présenté, sous la supervision de Martin Sebou-Jangoui. Retrouvez cette émission sur www.radiocapi.net. Bonne soirée et excellente suite des programmes sur la fréquence de la paix.